pas tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit.
Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Ondes Femmes, Radio Zone, nous reprenons le micro, le soleil est sur vos têtes, peut-être même la pluie, il y a eu un terrible orage qui a d'ailleurs causé une panne d'électricité dans nos studios, mais tout va bien, nous voici de pied d'œuvre. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève. Et puis quoi encore? Eh bien, bonjour, bonsoir. Dans quelques instants, nos nouvelles suivies du Memento. Marie-Ange et Marjolaine ont leur sac plein de nouvelles. À 20h, une émission spéciale 14 juin. Oui, on prépare la grève et nous discuterons avec Johanna Burgisser qui nous parlera de l'égalité, de l'histoire du mouvement pour l'égalité en Suisse. À 21h, une émission spéciale jazz, l'histoire des femmes dans le jazz, cinquième partie, les chanteuses de blues. Dans quelques instants, nos nouvelles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Radio Zone, nos nouvelles. À Genève, des députés menacés après le dépôt d'une motion contre les marchands d'armes. Le 1er mars de cette année, le journal GHI et l'agence de presse P-Network publiaient une enquête sur toute une série de trafics d'armes dont le financement transitait par Genève. Plusieurs sociétés et individus y étaient clairement mentionnés. Documents à l'appui, parmi lesquels la VUFAG, ayant siège à Boux, à Saint-Gall, Genève et Madrid. En parallèle de cette enquête, ou plutôt auparavant, deux députés, Mme Erika Deuber-Poli du Parti du Travail et Mme Sylvia Leuenberger du Parti écologiste genevois, avaient présenté en septembre 1990 au Grand Conseil genevois une résolution concernant les exportations de matériel de guerre. Le Parlement genevois n'a pas eu l'occasion de l'examiner, du moins sous cette forme, puisque le 11 octobre suivant, le projet avait été retiré par Mme Deuber-Poli et Leuenberger. Peu après, un texte semblable, mais amputé notamment des noms des sociétés et de leurs responsables, avait été présenté par Jean Spielmann du Parti du Travail au Grand Conseil. L'affaire semblait close, du moins on a pu le croire, jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, l'un des co-signataires de l'article fut informé de l'ouverture par la VUFAG d'une plainte pénale à son encontre pour vol de documents, atteinte au crédit, violation du secret de fabrication et commercial. Ce n'est pas tout. On a appris par la même occasion que les deux députés avaient été soumis à des pressions politiques et à des menaces familiales qui leur obligèrent à retirer leur motion. C'est l'écologiste journaliste Sylvia Leuenberger qui a subi les pressions les plus menaçantes. Elle déclare à la Tribune de Genève « Je dépose le projet de résolution et le vendredi suivant, je reçois un appel téléphonique anonyme. Au bout du fil, une voix d'homme sans accent particulier qui me menace en ces termes. » Si vous tenez à vos enfants, retirez les papiers avant de raccrocher très rapidement. J'ai immédiatement établi un lien entre les papiers qu'il fallait que je retire et le dépôt de notre projet de résolution. J'ai eu peur pour mes enfants, c'est vrai. J'ai retiré la résolution d'entente avec Madame Erika Deber-Poli. Fin de citation. Madame Leuenberger a par la même occasion explicitement admis que ces menaces furent déterminantes dans sa décision de retirer la résolution en question. Les deux députés ont aussitôt décidé d'écrire une lettre ouverte au procureur de la République du canton de Genève et au procureur de la Confédération. Madame Leuenberger a d'autre part demandé une audience au procureur de Genève pour lui faire part des menaces qu'elle avait subies, ce dont il a pris acte. Depuis qu'elle a retiré la résolution, Madame Sylvia Leuenberger n'a plus été inquiétée. Il apparaît donc que ce coup de téléphone est bel et bien lié au dépôt de ce texte. D'autres tentatives de pression plus subtiles ont été exercées sur la co-signataire de la résolution Erika Deber-Poli. Après avoir déposé le projet, elle a eu vent de rumeurs se rapportant à d'éventuelles plaintes pénales et de demandes de levée de l'immunité parlementaire lancées contre elle et sa collègue Sylvia Leuenberger. Nous écoutons maintenant une interview de Erika Deber-Poli faite par un journaliste de la Tribune de Genève qui explique plus en détail cette histoire.
Que nous avons déposé avec ma collègue Sylvia Leuenberger ne date pas du début de l'année 90, mais de septembre, c'est-à-dire à un moment où était engagée la crise du Golfe. Mais notre désir de déposer une interpellation ou en tout cas faire une intervention au Parlement sur ces questions a été éveillé, je crois, comme par vous, par la réception d'une correspondance qui nous a été adressée, qui provient de toute évidence des bureaux de la VUFAG à Genève, qui est cette société financière installée à Boux, dans le canton de Saint-Gall, qui dispose de bureaux à Genève. Et cette correspondance comportait plusieurs dizaines de papiers relatifs à des transactions en direction de l'Afrique, en direction du Moyen-Orient et via la Bulgarie. Que nous avons eu de la peine à interpréter parce que nous ne sommes pas des analystes commerciaux, mais on y a reconnu certains noms, non seulement le nom de la société et de ses administrateurs, mais par exemple le nom de Dzumbak, l'ancien directeur de l'Union internationale de protection de l'enfance, qui a été convaincu de malversation à la tête de cette organisation. Alors nous avons pris le nom de société. J'ai vu que nous en avons retenu 4. La Star Production SA et Erkis SA, qui sont liées entre elles, qui sont domiciliées à Genève, rue du Cendrier, qui passe pour avoir fourni des armes à l'Iran durant la guerre irako-iranienne et qui a été mise en évidence, cette société, dans les enquêtes menées sur l'un de ses collaborateurs, Francisco Paesa, recherché par Interpol et la police italienne pour ses activités d'une part au sein de l'extrême droite espagnole, le GAL, et pour divers trafics et qui disposait à Genève de l'immunité diplomatique puisqu'il était consul de Sao Tomé y Principe. Ensuite, il y avait, donc depuis lors, M. Paesa était déclaré persona non grata en Suisse et il a déposé plainte contre un journal genevois, la VO Réalité et son responsable d'édition, le député, le conseiller national Jean Spielmann, pour atteinte à l'honneur, je ne sais plus exactement les termes de la plainte, mais enfin il a déposé une plainte qui fait aujourd'hui l'objet de la procédure habituelle quand on porte plainte contre un député, contre un conseiller national. Le Conseil national et la Commission du Conseil national vont examiner la demande de levée d'immunité parlementaire qui fait suite à celle dont vient d'être victime Jean Ziegler. La deuxième de ces sociétés, c'est CSF, Compagnie de Services Fiduciaires SA, domicilié Chemin-Thury, ici à Genève, et qui, elle, a été impliquée surtout, semble-t-il, dans des trafics à destination de l'Amérique centrale pour la Contra au temps de la guerre avec les Sandinistes et le gouvernement du Nicaragua. Ensuite, la VFAG. Et enfin,
la SRC, Engineering Space Research Corporation, domiciliée aussi à Genève, et dont le président directeur général, le célèbre Boulle, aurait été, et cet inventeur d'un super canon qui aurait été destiné à l'Irak et qui a été assassiné en 90 à Bruxelles.
Venons-en au problème qui nous intéresse plus immédiatement. Que s'est-il passé à la suite, ou pendant ou avant le dépôt de votre interrogation au Parlement genevois?
Alors là, je vais être extrêmement prudente parce que je n'ai pas envie d'avoir à mon tour une demande de levée d'immunité parlementaire. Je vais donc en rester à ce qui concerne très étroitement le texte de ce projet de résolution. Donc, dans les jours qui ont suivi, rien de particulier, sinon que nous avons retiré ce projet de résolution à la suite de menaces sur lesquels je ne veux pas, je ne veux rien dire. De surcroît, c'était des menaces anonymes qui n'étaient pas dirigées contre moi en particulier, mais qui nous ont amenés à retirer le projet de résolution. Ces menaces étaient anonymes, faites par téléphone. Le projet de résolution a néanmoins été entièrement repris quelques jours plus tard par le député au Grand Conseil, Jean Spielmann, qui a cependant retiré du texte, de l'exposé des motifs, le nom des sociétés, le nom de leurs administrateurs. Ensuite, il y a eu une espèce de mouvement que je n'ai pas pu contrôler, mais dont j'ai eu quelques traces, et dont j'ai été avertie par un collègue député et avocat, de messieurs de ces sociétés qui auraient fait le tour de certaines officines d'avocats pour obtenir des renseignements nous concernant cette résolution et l'éventualité de déposer une plainte.
D'accord. Et en ce qui concerne votre collègue,
naguère, permettre au canton d'imposer séparément les époux afin notamment d'encourager le travail féminin.
Bien, c'était donc une interview d'Erika Deuber, Pauli, députée, interview qui a été faite par un journaliste de la Tribune de Genève. Il faudrait rappeler aussi que les journalistes qui les premiers ont sorti cette affaire, journalistes entre autres du GHI, ont également une plainte qui leur pend au nez. C'est donc des véritables menaces à la liberté d'expression, aussi bien des députés que des journalistes dont il s'agit. Cette enquête a été menée conjointement par P-Network et la GHI, VO Réalité et Tribune de Genève. Demain, dans les éditions de jeudi, GHI, VO et Réalité et Tribune de Genève publient également les résultats de cette enquête. Toujours en Suisse, une enquête du syndicat de la Fédération des travailleurs des métaux et de l'horlogerie, la FTMH, révèle des dures réalités de l'inadmissible dans les salaires. Près de la moitié des travailleurs de l'industrie des machines et de l'horlogerie ne touchent pas un salaire leur garantissant une vie décente. Une réalité inadmissible, dénonce la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie. Plus de 46% d'entre eux gagnent moins de 3500 francs par mois. Dans le Tessin, par exemple, 39% des travailleurs de la FTMH, tous sexes confondus, gagnent moins de 2000 francs. Les salaires des femmes dans l'horlogerie sont particulièrement bas. puisque 93,2% n'atteignent pas le seuil fatidique des 3 500 francs, considéré comme un minimum pour avoir une vie matérielle décente. L'industrie helvétique est-elle capable d'assurer à ses employés un mode de vie décent ? Telle est la question. Le doute est permis alors que les charges pesant sur les individus ne cessent de croître, notamment sous les poussées des taux hypothécaires et du renchérissement des assurances. Des récentes études menées à Bâle, Neuchâtel et Genève le confirment. La nouvelle pauvreté s'installe dans ces cantons. 15 à 25% des citoyens n'arriveraient pas à nouer les deux bouts. L'ampleur de ces chiffres démontre qu'on n'a plus affaire à des cas sociaux, mais bien à la paupérisation d'une forte minorité de la population condamnée à faire appel à l'aide sociale. Cela veut-il dire que les entreprises suisses sont prêtes à faire assumer par l'État les compléments de revenus qu'elles refusent à leurs employés ? Ce serait s'installer dangereusement dans une société à deux vitesses, aux effets d'autant plus pervers que, ironie du sort, le slogan « du moins d'État » est toujours aussi florissant. La solution réside, entre autres, dans la revalorisation du travail des femmes, qui constitue le plus gros bataillon des travailleurs sous-payés. Elle réside dans la fin du tabou qui règne autour des salaires et qui profite à l'employeur et pénalise fortement l'employé. Égalité entre hommes et femmes, il faut commencer déjà à l'école. Le 14 juin prochain, des femmes feront grève nationale pour protester contre les discriminations dont elles sont toujours et encore victimes. Via une motion, trois députés demandent qu'une pédagogie de l'égalité sexuelle soit mise en place dans les écoles. Il faut que cela change, estiment Mme Maria Roth, socialiste, Gabrielle Molini, écologiste, et Liliane Yonner, communiste, qui émettent donc quelques propositions. Intégrer dans la formation de base des enseignants une sensibilisation au sexisme, proposer une formation continue à ceux et celles d'entre eux qui voudraient approfondir la question, retravailler le matériel scolaire en vue d'y changer l'image de la femme, élaborer le matériel pédagogique avec une personne mandatée par le Bureau de l'égalité et faire en sorte que le 14 juin soit consacré à la réflexion sur ces problèmes, tant dans les écoles primaires que les classes du secondaire. Elles ont sorti, entre autres, des petites illustrations qu'on peut voir dans les manuels scolaires, par exemple la brochure de grammaire française au cycle d'orientation, où on voit pour l'exercice stimuler la pratique de la langue avec un zeste d'humour, d'accord, mais quelle illustration ! On voit une mégère qui reçoit son mari en lui montrant l'air avec son rouleau à pâtisserie. À ce propos d'ailleurs, on vous invite à vous rendre très nombreuses jeudi soir à 20h30 sur les tribunes du Grand Conseil, où cette motion sera discutée, ainsi d'ailleurs que le projet de loi sur l'égalité entre hommes et femmes à l'Université de Genève, entre autres pour mettre des espèces de quotas au niveau du corps intermédiaire et du corps professoral pour augmenter le nombre des femmes dans le corps enseignant à l'Université de Genève. Une autre motion a été également déposée au Grand Conseil, motion déposée par Micheline Calmiret, De Dardel et Jean Quelloz, concernant toujours l'égalité femmes et hommes et la grève du 14 juin. Cette motion invite le Conseil d'État à garantir qu'aucune sanction ne sera prise par l'État employeur à l'encontre des membres du personnel qui participeront sous une forme ou sous une autre au mouvement du 14 juin et à mandater le Bureau de l'égalité pour qu'il sensibilise les femmes, notamment les femmes au foyer, aux enjeux de ce mouvement de protestation. La motion explique le retard pris par l'économie privée comme par les autorités politiques à promouvoir l'égalité entre femmes et hommes dans les domaines économiques, professionnels et familiales qui justifie largement le mouvement du 14 juin. Les autorités politiques de notre canton, dit la motion, qu'il s'agisse du Grand Conseil ou du Conseil d'État, supportent leur part de responsabilité et se doivent le reconnaître. Un bon moyen à ce sujet serait pour l'État employeur de montrer l'exemple et en tant qu'autorité politique d'avoir à cœur de faire respecter la Constitution fédérale. Il existe par ailleurs à Genève un bureau de l'égalité, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas partout. À l'occasion du 14 juin, le Conseil d'État pourrait lui donner mandat de remplir son rôle en s'adressant à l'ensemble des femmes et notamment aux femmes au foyer qui vivent souvent en marge des débats politiques. L'action du bureau de l'égalité devrait comprendre l'organisation d'une journée porte ouverte à toutes les femmes. À Zurich, les nuits sont trop dangereuses pour les femmes seules. Le conseil donné par une Zurichoise de vieille date à une plus jeune arrivante. Si tu veux sortir le soir, trouve vite un copain ou achète une voiture que tu puisses parquer au pied de ton immeuble. Il ne se passe en effet pas de nuit qui n'ait son lot d'agressions contre des femmes seules. Dans la majorité des cas, le motif est sexuel, mais il peut aussi s'agir du portefeuille ou de la drogue. La municipalité de Zurich innove en la matière puisqu'elle demande un crédit de 4 millions de francs pour la protection des femmes victimes de violences sexuelles. Une période de 3 ans est prévue pour tester l'efficacité d'un lieu de contact ouvert aux femmes violentées placées sous la responsabilité de l'Office social municipal. L'aide envisagée comprend l'assistance juridique, médicale et psychothérapeutique et pour les cas d'épouse ou de compagne maltraitée, une participation financière aux frais de déménagement et de recherche d'un nouveau logement. Le projet communal correspond à une attente des organisations féministes. Elles ont tapé sur le clou. Elles ont réussi à gagner par leur insistance l'attention d'autorités contraintes actuellement de serrer les cordons. Il serait évidemment préférable d'étudier de plus près la prévention de cette violence. Le Zurichois, quand il reste à la maison pour regarder la télévision, est presque assuré, s'il zappe avec constance, de voir sur l'une des 24 chaînes offertes à son choix une scène de violence dont une femme est l'objet, si ce n'est pas un film porno, qu'il peut d'ailleurs voir dans de nombreuses salles de cinéma spécialisées. Le journal zurichois Le Blick pratique aussi l'ambiguïté en donnant d'une part un portrait de la femme assoiffée de sensations fortes et d'autre part en montrant du doigt les vilains messieurs qui le lisent au pied de la lettre. Le lieu de contact pour les femmes victimes de violences sexuelles ne se veut pas seulement centre passif où l'on vient frapper comme on l'a été. Il compte bien aussi mener campagne pour que dans l'administration communale, police comprise, il y ait davantage de sensibilité sur ces problèmes. Toujours en Suisse, les assurances se vaccinent contre le sida, ce qui est dénoncé par les associations d'aide aux malades du sida. Les sociétés d'assurance maladie, en imposant un test de dépistage à leurs nouveaux adhérents, marginalisent les victimes du sida. Les compagnies d'assurance imposent aux preneurs d'assurance un test de dépistage et selon le résultat, assortissent le contrat de réserve ou refusent l'admission si elles le peuvent. En Suisse, près du quart des tests de dépistage sont ainsi fait à la demande des assurances. L'aide suisse contre le sida a lancé un appel ferme et sonnant aux assurances pour qu'elles revoient leurs pratiques. Il faut d'ailleurs préciser que le poids du sida sur la santé économique des compagnies de caisses d'assurance demeure et demeurera modeste. Une étude de l'Université de Saint-Gall, qui a essayé d'évaluer le surcoût financier que l'assurance vie devrait supporter jusqu'en 1995, considère très faible. La charge attendue atteint 400 millions de francs, soit 0,3% du volume global des primes. Pour les caisses maladie, elles devraient supporter des dépenses globales dues au sida qui se monteraient à 500 millions de francs, soit 0,6% des dépenses totales. Première à Holten, l'âge de la retraite identique pour les deux sexes. L'âge de la retraite est fixé à 63 ans pour tous les employés hommes et femmes de la municipalité d'Holten, rétroactivement au 1er janvier 1991. Le législatif a décidé jeudi soir de modifier dans ce sens le règlement de la caisse de pension municipale. L'âge de la retraite des femmes est retardé d'un an, celui des hommes avancé de deux. C'est un compromis qui a été trouvé. Les femmes employées, d'ailleurs, pourront prendre leur retraite à 62 ans si elles le veulent. Mais abaisser l'âge des hommes à 62 ans n'aurait pas été possible pour des raisons financières. En France, une grande première judiciaire en ce qui concerne le divorce. Une juge a autorisé pour la première fois un enfant à défendre ses droits lors du divorce de ses parents, en application de la Convention internationale des droits de l'enfant signée l'an dernier par la France. Une magistrate aux affaires matrimoniales de Lille a jugé que l'intérêt de chacun des parents n'était pas forcément celui de l'enfant qui a 10 ans. Il a autorisé ses avocats à intervenir en son nom dans l'action intentée par la mère pour obtenir le retrait du droit de visite accordé à son ex-mari. C'est en son nom propre et non par le biais de sa mère qu'elle remet en cause le droit de visite, a expliqué un des avocats de la fillette. Cette fois, dit-il encore, la juge a admis que l'enfant pouvait être partie prenante. Au lieu d'être considéré comme un objet sur lequel on va statuer, il est reconnu comme une personne qui a des droits en justice. Nouvelle de l'espace, une femme britannique, Helen Sharman, a été la première britannique à s'envoler dans l'espace avec une mission soviétique. La femme de Mars, comme on l'a surnommée en Angleterre, s'est envolée samedi en compagnie de deux soviétiques pour rejoindre la station Mir. Cette première n'a pas ému le royaume britannique. Le premier britannique dans l'espace est donc une britannique. C'est une jeune scientifique spécialisée dans l'alimentation. Ça fait 17 mois qu'elle s'est entraînée pour cela. Elle a d'ailleurs simplement répondu à une petite annonce. Car le gouvernement britannique n'a jamais cru bon d'investir dans l'espace. Surtout en plus quand c'est une femme qui va s'y promener. Et la mission d'Helen Sharman s'en est ressentie cruellement. D'autant que le sponsorship n'a pas été non plus à la hauteur. Seul Interflora, le magasin de fleurs, une société de montres et un fabricant de cassettes se sont avancés à soutenir l'aventure. Il a même fallu imprimer des t-shirts pour venir à la rescousse de la jeune astronaute. Les expériences conduites par Helen Sharman dans l'espace ne sont pas d'ailleurs celles qui pourraient lui valoir un prix Nobel. Elle n'a pas eu l'argent pour cela. Elle s'est intéressée uniquement à la culture génétique des pommes de terre dans l'espace. C'était les nouvelles sur la pleine lune 93.8 MHz. Dans quelques instants, notre memento.
I just found joy. I'm as happy as a baby boy. With another brand new choo-choo joy. When I'm with my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine. She's got a pair of eyes that are brighter than the summer skies. When you see them, you will realize why I love sweet Lorraine. When it's raining, I don't miss the sun. Cause it's in my baby's smile. Oh, oh. And to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle. Oh, oh, oh. Each night I pray,
always be that way again. And yet I have grown accustomed to his voice. accustomed to his touch, accustomed.